France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des pires infanticides survenus en Allemagne, l'affaire Christiane K. Du nom de cette jeune femme de 27 ans qui, en septembre 2020, a tué de ses propres mains ses 5 plus jeunes enfants. Au début de l'enquête, les éléments à charge contre la mère se multiplient. Il se trouve que le matin même, le père des enfants avait annoncé par message à sa compagne qu'il avait l'intention de la quitter pour une autre femme. Après leur avoir servi le petit déjeuner, Christiane K. aurait drogué ses enfants pour les endormir avant de les noyer un à un dans la baignoire. Contre toute attente et malgré des preuves accablantes, le jour de l'ouverture de son procès, Christiane K. plaide non coupable. Et à vrai dire, sa version n'a pas bougé d'un iota depuis son arrestation. Le jour du drame, un homme s'est introduit chez elle et l'a forcé à tuer ses enfants, affirme-t-elle. Alors faut-il croire cette femme que toutes les preuves semblent accablées ? Et qui est cet homme qui semble sortir tout droit de son imagination ? Comment juger une mère qui a commis l'irréparable ? Notre invitée aujourd'hui, la reporter et romancière Prune Antoine. Dans le cadre de son enquête, elle a rencontré Christiane K. en prison et en a tiré un livre, La mère diabolique, paru aux éditions de Noël, sur lequel est basé le récit que vous allez entendre. Notez que pour préserver l'anonymat des personnes concernées, mis à part celui de Christiane K. bien sûr, les prénoms ont été remplacés par des pseudonymes. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Bettina Lioré. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
3 septembre 2020, 13h30. Dans la cuisine de sa maison de Mönchengladbach, en Allemagne, Julia, 54 ans, termine de nettoyer la vaisselle de son déjeuner lorsqu'elle reçoit un message sur WhatsApp. Les mains encore mouillées, elle jette un regard sur son téléphone. C'est sa fille, sa petite Chrissy, qu'elle voit peu depuis qu'elle est installée dans la banlieue de Solingen, à 60 km de chez elle. Peut-être a-t-elle besoin d'aide avec les enfants ? Ou veut-elle simplement discuter avec sa mère ?
Ça ne va pas du tout. Je n'en peux plus.
Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais appeler la police.
Oui, envoie la police à la maison. Les enfants sont morts.
Le souffle coupé, Julia se fige et laisse tomber son portable sur le plan de travail. À 13h45, la sonnerie retentit au commissariat de Mönchengladbach. L'appel de Julia est aussitôt transféré à la centrale d'urgence de la police de Wuppertal, qui décide d'envoyer une équipe d'urgence à l'adresse indiquée. 5 minutes plus tard, les forces d'intervention d'urgence arrivent au 155 Haselstrasse. Les pompiers gravissent 4 à 4 les marches des escaliers avant d'enfoncer la porte. L'appartement baigné de lumière est plongé dans le silence. Alors prudemment, les pompiers s'engagent dans l'entrée. Ils passent devant la table de la cuisine où s'amoncellent les restes du petit déjeuner, enjambent les jouets qui traînent par terre, et progressent dans le couloir en frôlant de leurs épaules des dessins d'enfants collés au mur. En entrant dans la première chambre, ils aperçoivent sous les couvertures des lits des silhouettes inanimées. En s'approchant, les pompiers découvrent alors, répartis dans les lits de la chambre, les corps sans vie de 5 très jeunes enfants, emmitouflés dans des serviettes trempées. Au téléphone, l'opératrice marque une pause et confirme l'impensable. Les enfants sont morts. À 14h13, alors qu'à Solingen, une cellule d'aide psychologique est ouverte pour les agents profondément choqués par cette scène de crime particulièrement éprouvante, le téléphone sonne à nouveau au commissariat de Wuppertal. Une femme s'est jetée sous un train à la gare de Düsseldorf. 1m55, cheveux blonds mi-longs. Son nom, Christiane K. C'est la mère des enfants retrouvés morts et désormais la suspecte numéro 1. Mais parce qu'elle est gravement blessée, elle ne peut pas être interrogée dans l'immédiat. Alors qu'une information judiciaire est ouverte par le parquet de Wuppertal, les enquêteurs tentent de reconstituer la chronologie des événements advenus le matin même à partir du téléphone portable de Christiane K. retrouvé sur place. Parmi les échanges WhatsApp qu'elle a tenté d'effacer, les policiers tombent sur un message envoyé le jour du drame à 7h03 par Christian K, au père de ses quatre plus jeunes enfants.
Tu te fous de moi avec la photo de ta nouvelle meuf ?
J'ai rencontré quelqu'un et je veux un nouveau départ. Comment on se débrouille pour les enfants ?
Aucune idée. T'as qu'à en faire avec ta nouvelle meuf ? Tu ne reverras plus jamais les enfants.
Quoi ? À cause de ma nouvelle copine ? Dis-moi quand je pourrai venir voir les enfants.
Les enfants sont partis.
C'est pas sérieux. T'es malade, ma parole.
Je n'en peux plus. Appelle la police et dis-leur de venir à l'appartement.
T'es taré.
Ils sont déjà au ciel, là où je serai bientôt.
Arrête tes conneries.
Les enfants sont morts.
Dès lors, le mobile du crime semble se préciser. La suspecte n'aurait pas supporté que son ex-compagnon refasse sa vie avec une autre femme. Alors pour se venger, elle aurait décidé de noyer ses 5 enfants dans la baignoire. Mais les policiers ont du mal à y croire. Enfin, quelle mère serait capable de tuer ses enfants pour se venger de leur père ? Ce scénario a beau être digne d'un mauvais roman policier, il semble pourtant se confirmer. Et pour cause. Dans l'appartement passé au peigne fin, les policiers ne relèvent aucune trace d'effraction. Pas de trace de coups, ni de contusions sur le corps des enfants. Mais sur la table du petit déjeuner, des boîtes de Vomex et de Nurofen attirent l'attention des enquêteurs. Et rapidement, la piste de l'empoisonnement est privilégiée. Avant d'être confirmée par les résultats des autopsies, les enfants ont été drogués avant d'être étranglés ou noyés dans la baignoire, les uns après les autres, les plus petits en premier. Le seul survivant de la fratrie et le dernier à avoir vu Christiane K ce jour-là, c'est Alex, 11 ans, qui ne tarde pas à être localisé chez sa grand-mère maternelle. À 16h, les policiers débarquent à Mönchengladbach pour recueillir son témoignage. Au matin du 3 septembre 2020, Alex quitte l'appartement familial, se rend seul au collège. Vers 11h45, alors qu'il est en cours, la directrice l'informe que sa mère a appelé le collège. Il doit la rejoindre à midi pour aller à un rendez-vous chez le dentiste. Un quart d'heure plus tard, il la retrouve dans le centre-ville de Solingen. Et c'est là, assis dans le bus, que sa mère lui annonce la nouvelle. Ses frères et ses sœurs sont morts dans un accident de voiture. Alex ne comprend pas, il ne peut pas y croire. Une fois arrivé en gare de Düsseldorf, Christiane K. lui demande alors s'il veut venir avec elle. « Pourquoi faire ?» lui répond l'adolescent. « Sautez avec moi sous le train, » répond Christiane. Alex refuse, évidemment. Alors elle le fait monter dans un wagon qui l'emmènera chez sa grand-mère. Elle redescend seule sur le quai, guette l'arrivée d'un train et se jette sur les rails. Face à la thèse d'un crime de vengeance, les révélations de l'adolescent donnent plutôt l'impression d'un suicide élargi. C'est aussi la thèse que soutient le criminologue Marc Hoffmann à la télé allemande le 5 septembre 2020.
Ces personnes ne voient pas leurs enfants comme des personnalités distinctes, mais plutôt comme une sorte de prolongement d'elles-mêmes. Lorsqu'elles n'ont plus aucune perspective, plus aucun espoir, et qu'elles décident d'en finir, elles ne peuvent pas envisager de laisser leurs enfants seuls. Dans ce qu'ils considèrent un monde terrible et cruel. D'une certaine manière, de leur point de vue, il s'agit d'un acte de bonté. Ils sauvent les enfants d'un monde terrible ou d'une vie terrible et les emmènent avec eux jusqu'à la mort. Et tout porte à croire que c'est le cas ici.
Au lendemain de ce quintuple meurtre, la ville de Solingen est en deuil. Pour le moins. Le maire se rend sur place et les habitants se rassemblent spontanément, au pied de l'immeuble, bougie à la main, les yeux rougis par les pleurs. Au deuxième étage, les petites paires de chaussures des enfants sont encore là, alignées sur le palier. Les voisins avaient l'habitude de les croiser avec leur mère dans les escaliers, comme dans tout immeuble. Alors autant dire qu'ils n'en reviennent pas.
Je ne sais vraiment pas à quel point elle devait être désespérée ou ce qui a bien pu se passer pour qu'une mère fasse quelque chose comme ça à ses enfants.
C'est tout simplement horrible. J'ai moi-même 2 enfants et je suis choquée.
J'ai vraiment eu la chair de poule quand j'ai entendu qu'une mère pouvait faire quelque chose comme ça.
Mais si ses voisins décrivent Christiane K. comme une jeune femme polie et discrète, les tabloïds allemands qui s'emparent de l'affaire en dressent un tout autre portrait. parce qu'elle est devenue mère à 16 ans et qu'elle a eu 6 enfants de 3 pères différents. La petite blonde aux yeux bleus fardés de noir est présentée comme une séductrice insatiable qui n'hésite pas à flirter en ligne avec des inconnus. Des photos en gros plan de Christiane K., adolescente, embrassant un jeune homme, sont exhumées des tréfonds d'Internet et affichées en couverture. Vulgaire, dépravé, immoral, tout y passe. Cette description malveillante de l'accusé imprègne forcément l'opinion publique à l'approche du procès. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Christiane K.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Mars 2022. Dans le bus qui l'a conduit à la prison de Cologne, Prune Antoine, une reporter et romancière franco-allemande, installée à Berlin depuis une dizaine d'années, relit le dossier que lui a transmis l'avocat. Enfin, elle va rencontrer Christiane K. Enfin, elle va entendre sa version des faits. Et peut-être comprendre son histoire. Depuis des mois, la journaliste, elle-même mère d'une petite fille de 2 ans, est totalement mobilisée par cette affaire. Et bien qu'elle soit habituée aux enquêtes compliquées, l'idée de se retrouver face à cette femme qui a, de toute évidence, tué ses 5 enfants en bas âge, de ses propres mains, Tout cela la plonge dans une profonde agitation. Quelle question poser? Et puis, comment se comporter? Écouter sans juger? Oui, c'est la ligne de conduite qu'elle se fixe. De toute façon, Christiane K. a déjà été condamnée 4 mois plus tôt à la perpétuité. Ça relativise l'enjeu pour la journaliste. Et c'est un peu moins de pression. Reste que le procès n'a pas permis de lever le voile sur la personnalité ou la trajectoire de l'accusée. Était-elle une mère affectueuse, comme le disent les voisins? Ou une femme dénuée d'empathie, comme le disent les psychiatres mandatés par la cour? Et puis, quel était son parcours de vie? Comment s'est passée son enfance? La journaliste s'interroge également sur la manière dont Christiane K. a tenu le coup pendant le confinement. Pendant 6 longues semaines, elle a dû s'occuper seule de ses 6 enfants, 24 heures sur 24, puisque les crèches, les maternelles et tous les établissements scolaires étaient fermés. Et il est bien possible que cela ait eu un impact sur sa santé mentale. Thèse avancée notamment par le criminologue Marc Hoffmann sur un plateau de télé de la chaîne allemande Bild.
Lorsqu'un pays est en crise, la probabilité de tels actes augmente. Bien entendu, la pandémie de Covid-19 n'est pas forcément l'unique élément déclencheur, mais ça peut avoir été un facteur de stress supplémentaire, difficile à gérer. Imaginez-vous passer 6 mois à la maison avec 6 enfants en bas âge. Ne me dites pas que ce n'est pas une situation stressante qui peut empirer les choses.
Pourtant, pendant le procès, personne n'a jugé important de mentionner le confinement Covid et son rôle potentiel dans le drame. Et puis il y a ce doute qui hante la journaliste depuis qu'à l'ouverture de son procès, l'accusée a plaidé non coupable. Et elle a dit « Ce n'est pas moi qui ai tué mes enfants, mais un homme en noir qui s'est introduit dans l'appartement ce matin-là. » Mais qui est cet homme? Cet homme en noir? Existe-t-il vraiment? Après tout, il n'y a aucune preuve matérielle le concernant. Et c'est bien ce qu'assure Christiane K. à Prune Antoine au parloir ce jour-là. Témoignage retranscrit dans cet extrait de son livre « La mère diabolique ».
Le 3 septembre 2020, quelqu'un frappe à la porte. Un homme qu'elle n'a jamais vu. La quarantaine, grand, portant des gants et un masque chirurgical bleu, la fixe. « Nelly, je vais détruire ta vie, comme tu as détruit la mienne. » Elle croit d'abord que c'est un homme qu'elle a rencontré en ligne, un stalker. Il l'appelle Nelly. C'est le pseudo qu'elle utilise en ligne. La scène qu'elle me décrit ensuite, pendant 20 minutes, et qui la fait trembler. Cet homme qui la bascule sur un canapé, lui attache les mains, lui bâillonne la bouche. Cet homme qui la contrôle physiquement, qui s'énerve, la menace. Cet homme qui lui dit de faire taire les enfants. Qui lui donne les médicaments et la force à les noyer dans la baignoire. Cet homme qui la caresse et qui lui dit, une fois que tout est terminé, on va pouvoir s'amuser un peu maintenant.
Cette version qu'elle répète aux enquêteurs et aux psychiatres depuis son réveil à l'hôpital universitaire à la prison de Cologne est peu crédible. Les messages WhatsApp qu'elle a envoyés à son ex et à sa mère le 3 septembre 2020, au contraire, elle accuse. Alors d'où vient cette histoire de viol racontée dans les moindres détails et qui semble provoquer chez Christiane un tel effroi? Et encore une fois, qui est cet homme mystérieux qui aurait détruit sa vie et dont personne ne semble se soucier? Au fil des mois, des parloirs et des échanges de lettres, la jeune détenue accepte peu à peu de se livrer à la journaliste de 10 ans son aînée, qui, contrairement à tous ceux qu'elle a croisés depuis son arrivée en prison, ne la juge pas. Non, elle l'écoute. Alors, Christiane lui parle de son enfance, de sa mère, qu'elle aime beaucoup, mais qu'elle considère davantage comme une copine. Elle lui parle également de son frère, très renfermé, et de son père, condamné en 2013 pour détention d'images pédopornographiques. Prune Antoine le raconte dans son enquête.
Elle se souvient des étés au jardin. Son père qui l'oblige à enlever son maillot de bain quand il fait trop chaud, qui filme avec son caméscope, prend des photos qu'il punaise ensuite au mur du couloir. Elle le revoit s'enfermer dans son bureau devant l'ordinateur pendant des heures, ou se balader à poil dans la maison. Elle crève de dégoût de le regarder s'exhiber comme ça. Elle est allongée dans son lit. Il se penche sur elle et une odeur âcre envahit ses narines. Âcre ou aigre, elle ne peut pas la définir. Juste que cela lui donne envie de vomir. C'est une odeur de renfermé, de vieux, et le souvenir s'interrompt.
Christiane a-t-elle été victime d'inceste? Son avocat lui expliquait que si elle porte plainte contre son père, cela pourrait éclairer le juge et jouer en sa faveur au procès. Mais Christiane refuse. Les faits sont prescrits. À quoi bon raconter ce qu'elle a subi à tous ces gens si c'est pour que ça se termine sur un non-lieu ? Quelques jours plus tard, Christiane continue son récit, par lettre cette fois. Elle part à la prune Antoine de sa grand-mère qu'elle adorait et chez qui elle aimait tant passer des vacances, jusqu'à l'été 2004. Parce que c'est là que tout a basculé, oui, quand elle avait 12 ans.
Un ami de son oncle est là depuis quelques jours. Il dort dans le petit cabanon à côté de la maison. Il la fixe avec un sourire moqueur. La main se pose et remonte lentement sur sa cuisse. Il baisse son jean sur ses genoux et les doigts cherchent sa culotte. Il lui tripote l'entrejambe et remonte sur ses seins. Il appuie de tout son poids sur elle, lui bâillonne la bouche. Il entre en elle et commence à s'agiter. Tout son corps à elle est paralysé. À l'oreille, la voix lui murmure de ne pas bouger et de ne rien dire à personne. Sinon, quand il reviendra, ce sera encore pire. De toute façon, personne ne la croira.
Comme le raconte Prune Antoine dans son enquête, à partir de là, Christiane plonge dans une insidieuse spirale d'autodestruction. Elle a l'impression d'être constamment suivie par un homme en noir, le fameux homme en noir, qui semble avoir élu domicile jusqu'au tréfonds de son âme. Alors, elle commence à se scarifier, alterne boulimie et anorexie, au point d'attirer l'attention des services de l'aide sociale à l'enfance. Un psychologue, qui constate chez elle des troubles du comportement et une tendance suicidaire, juge plausible qu'elle ait été abusée sexuellement. L'une de ses institutrices signale dans son dossier que Christiane fait des dessins évoquant un possible abus sexuel. Et pourtant, rien ne se passe. Après une tentative de suicide, 3 mois d'internement en clinique psychiatrique et sur les conseils de sa thérapeute qui juge plausible la théorie d'un abus sexuel, Christiane K. se décide à pousser la porte du commissariat, comme Prune Antoine le raconte.
Une procédure est entamée, mais Christiane n'est plus sûre des dates. L'agression remonte à plus de 2 ans. Elle avait 12 ans. A-t-elle des indices ? Un examen gynécologique ? Des témoins ? Non. Lorsque la police l'interroge, tout devient flou. Elle n'est plus sûre de rien. L'homme qu'elle accuse nie. Aux dates qu'elle mentionne, il était en prison. Il n'y a pas de preuves, pas de traces d'ADN, pas de marques de violence. Selon la loi, la police et ses proches, Christiane appelle à l'aide pour une agression sexuelle qui n'existe pas, seulement dans sa tête.
Son salut, Christiane K. le trouve dans la maternité. À 16 ans, elle donne naissance à son premier enfant, Alex, qui devient le centre de son univers. Et tant pis si son père prend la poudre d'escampette. Tant pis s'il faut essuyer les regards réprobateurs et les remarques désobligeantes des passants qui jugent la fille mère qu'elle est devenue. Et alors, les chiens aboient, la caravane passe. Enfin, Christiane a trouvé un sens à son existence. 3 ans plus tard, elle accouche d'un autre petit garçon, Luca, issu d'une seconde union. Cette fois encore, le père du petit se volatilise. Alors Christiane se jure de ne plus s'engager à la va-vite. Utopie, c'est l'amour qui décide. Et il se trouve que lorsqu'elle rencontre Pascal, c'est le coup de foudre. Alors, de fait, ils se marient en 2013. Pascal adopte Alex et Luca, puis viennent Timo, Sophie, Léonie et Mélina, la Benjamin, née en 2019. Ses enfants, dira-t-elle plus tard, lui ont sauvé la vie. En prison, dans son journal, elle écrit
« Ma fille Sophie était unique en son genre. Tellement sérieuse et puis après drôle. Quand ses frères faisaient quelque chose qu'ils ne devaient pas faire, Sophie leur disait en levant le doigt « Non, on n'a pas le droit de faire ça !» Dans ce genre de moment, je devais toujours me contrôler pour ne pas éclater de rire. Quelques mots sur ma fille Léonie. Elle était mon petit enfant souci. Et si têtue. Quelques semaines après la naissance, le pédiatre a constaté une malformation de la hanche. S'asseoir, ramper, oui, tout cela était toujours en retard sur les dates normales. Mais comme je voyais qu'elle avançait bien, je ne me suis jamais fait de gros soucis. Mon Dieu, elle aurait besoin de plus de temps. Et alors, où est le problème ? Mélina était un vrai rayon de soleil, mais seulement quand elle était avec sa maman. De préférence, 24 heures sur 24. Oui, je sais que je n'aurais pas dû faire ça. Mais je la portais la moitié de la journée. Je ne pouvais pas faire un pas sans elle. impossible pour moi de l'entendre pleurer. Chaque fois, cela me déchirait le cœur.
Entre-temps, la famille s'est installée près de Solingen, dans une banlieue sans âme, quelque part entre Düsseldorf et Cologne. C'est Christiane qui a réussi à obtenir ce logement social de 80 mètres carrés. Avec les aides qu'elle touche de l'État, et grâce à sa capacité à gérer au centime près un budget très serré, Christiane K. s'en sort, et les six enfants ne manquent de rien. Mais la vie n'est pas rose pour autant. Le chômage et la dépression rongent le moral de Pascal, qui se met à boire et à déserter l'appartement. Il lui vole son téléphone, sa carte de crédit, puis disparaît sans donner de nouvelles. Régulièrement, Christiane contacte l'institution chargée en Allemagne de la protection de l'enfance pour dénoncer les violences psychologiques et physiques qu'elle et ses enfants subissent de la part de Pascal. Dans le dossier familial, on peut lire « 15 juin 2018, plainte de Christiane K. pour menaces et coercition par mail. » Ou encore « 22 avril 2019, menace de suicide de Pascal lorsque sa femme annonce vouloir demander la séparation. » En décembre 2019, Christiane demande même la garde exclusive des enfants, car je la cite. Pascal est injoignable par téléphone. Il ne s'occupe plus de ses enfants depuis son départ du domicile. Il est psychiquement malade, boit trop d'alcool et a volé de fortes sommes d'argent. Si bien que ni le loyer, ni les dépenses alimentaires ne peuvent être payées. 3 mois plus tard, le couple se rabiboche et Christiane K. retire sa demande de garde parentale exclusive. Les services sociaux sont donc bien au fait des problèmes qui existent au sein du couple. Régulièrement, des visites sont organisées, mais les enfants semblent ne manquer de rien et recevoir beaucoup d'affection. En mars 2020, Christiane, comme tout le monde, se retrouve confinée pendant 6 semaines dans l'appartement avec ses 6 enfants, Covid oblige. Pascal, lui, devient possessif. Il lui interdit de parler à d'autres hommes, se met à la surveiller. Il la frappe une première fois, puis une deuxième. Une autre fois, peu avant le drame, il l'étrangle, comme elle le raconte à un psychiatre après l'arrestation de Pascal.
Il ne m'a pas vraiment frappée, mais j'avais quand même des marques vertes et bleues sur le corps. Lors d'une petite dispute, il est devenu complètement fou et m'a étranglée, poussée contre le mur de telle sorte que je me suis écrasée les épaules et la tête contre la cuvette des toilettes. Et là, tout était cassé et j'avais des bleus partout. Il a essayé de convaincre les enfants de dire aux policiers que c'était la faute de leur maman, parce qu'il avait des égratignures sur le cou. Parce que j'ai essayé de le repousser et que les enfants avaient eu tellement peur qu'ils s'étaient cachés dans leur chambre.
Et vous avez alors appelé la police ?
Oui. C'était toujours comme ça. Dès que je touchais le téléphone et que je disais que j'allais appeler la police, il baissait un peu le ton, et puis après, ça allait à peu près.
À la fin du mois d'août 2020, après une énième fugue, Pascal est de retour dans l'appartement de Solingen. Christiane est la seule qu'il aime, ce qui n'a pas empêché de la frapper. Mais il est prêt à tout pour donner une chance à leur couple. Il lui parle même de faire un 7e enfant. La jeune femme se laisse convaincre et accepte de le laisser revenir. Après tout, les vacances qu'elle a réservées pour toute la famille en Croatie approchent et leur feront sûrement du bien. Le 3 septembre 2020, à 6h30, Christiane ouvre les yeux et attrape machinalement son téléphone. Et quelque chose l'interpelle immédiatement. La photo de profil de Pascal sur WhatsApp a été modifiée. Désormais, il y apparaît enlaçant une autre femme devant un coucher de soleil. Christiane est sous le choc. Elle se lève, réveille les enfants, embrasse Alex qui part au collège et commence à préparer le petit déjeuner. Mais à quoi pense-t-elle ? Que se passe-t-il précisément à ce moment-là dans son esprit ? La suite, c'est une journaliste d'Euronews, dépêchée sur place, qui la raconte.
C'est derrière ces murs au 3e étage que les enquêteurs ont découvert les corps de 5 enfants à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne. 3 fillettes âgées d'1, 2 et 3 ans et 2 garçons de 6 et 8 ans. La mère, soupçonnée d'être l'auteur de ce quintuple meurtre, a tenté de se suicider à une trentaine de kilomètres à Düsseldorf. L'aîné de la fratrie est le seul à avoir eu la vie sauve.
L'enquête de police conclut à une surcharge émotionnelle liée au contexte de séparation entre Christiane K. et son ex-compagnon. Mais rien n'oblige les magistrats du parquet à retenir ce mobile pour le procès prévu à l'été 2021. 18 jours après le début des audiences, le juge rend ses conclusions. D'après lui, le quintuple infanticide n'était pas motivé par une surcharge émotionnelle ni par une pulsion suicidaire, mais bien par la jalousie. Christiane K. est donc jugée sur son mobile présumé, la vengeance. Le jeudi 4 novembre 2021, le verdict tombe. Elle est condamnée à la prison à perpétuité avec 20 ans de détention incompressible. Elle a, à ce moment-là, 28 ans. Ce qui étonne Prune Antoine, comme elle explique dans son enquête, c'est qu'on ne lui reconnaît pas la moindre circonstance atténuante. L'accusée a beau être une mère célibataire en instance de séparation. Avec 6 enfants en bas âge durant une épidémie mondiale, on ne lui diagnostique pas pour autant un burn-out. Elle a beau avoir été internée en clinique psychiatrique par le passé. Son dossier a beau faire état de troubles sociaux, psychologiques et de pulsions suicidaires, elle n'est pas considérée comme dépressive, car elle ne remplit pas les critères requis par le DSM-5, le manuel des troubles mentaux qui permet aux psychiatres de poser des diagnostics sur leurs patients. Et si les juges ne considèrent pas qu'il s'agit d'un suicide élargi, mais bien d'un syndrome de Médée, c'est-à-dire un crime de vengeance, c'est parce que Christiane n'a pas réussi à mettre fin à ses jours. Et selon l'une des psychiatres mandatés par la Cour, quand on veut vraiment en finir, en général, on ne se rate pas. Christiane K. ne souffrirait donc d'aucun trouble de la personnalité, ni d'aucun trouble mental. Au contraire, elle est décrite par les experts comme une femme froide, distante et peu empathique, avec de forts traits narcissiques. Et parce qu'elle a endormi ses enfants avant de les noyer, le juge choisit d'ajouter une circonstance aggravante, la perfidie, qui permet en Allemagne de requalifier un homicide en meurtre. Raison pour laquelle elle écope de la peine maximale. Janvier 2024, c'est la dernière fois que Prune Antoine se rend à la prison et incarcère Christiane K. Elle lui demande si elle sait ce qu'est la dissociation. Parce que peut-être a-t-elle agi sans s'en rendre compte. Peut-être que son acte est une conséquence des violences qu'elle a elle-même subies, plus jeune. Non, lui répond Christiane, c'est pas elle qui a tué ses enfants. L'avocat ne vous a pas parlé des traces ADN ? Quelles traces ADN ? Répond Prune Antoine. Celles d'un individu de sexe masculin. Elles ont été retrouvées sur les enfants, mais personne n'a approfondi les recherches. Alors, Christiane K. a-t-elle vraiment tué ses enfants ? Est-elle victime ou bourreau ? Si cette affaire bouleverse autant celles et ceux qui s'y intéressent, c'est parce qu'elle ne fournit pas de réponse claire et définitive. Et ça, on n'aime pas.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Christiane K. en Allemagne. On en parle avec Prune Antoine, notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en duplex pour revenir sur cette affaire. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez mené une enquête sur l'affaire Christiane K. Enquête publiée dans plusieurs journaux, hein, le Nouvel Obs en France, mais aussi ailleurs, en Suisse et en Allemagne. L'engouement autour de ce quintuple infanticide a été tel que vous en avez fait un livre intitulé « La mère diabolique », livre paru aux éditions de Noël. Déjà pour soulever un mystère qui est évoqué dans le récit, bien sûr, cet homme en noir, vous y croyez, vous ?
Non, mais c'est un, en tant que romancier, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à exploiter, cette espèce de dichotomie entre ce qui est réel et ce qui relève de la fiction. C'est vrai que c'était quelque chose de très intriguant parce que c'est une version dont Christiane, en fait, n'a jamais démordu, c'est-à-dire que ce soit avec la police, avec les psychiatres, avec moi, et ce sur plusieurs années, en fait. Elle est vraiment restée sur cette idée de l'homme en noir. Alors, c'est assez connu, visiblement, que les auteurs de crimes ont tellement de mal avec la culpabilité qu'il y a un mécanisme psychique qui va se mettre en place, qui est de dire « je ne suis pas coupable, je ne l'ai pas commis ». Mais dans le cas de Christiane, je pense que c'est vraiment le résultat d'un certain nombre de choses qu'elle a pu vivre et qui ont été mis en avant dans le récit, et notamment un certain nombre d'abus sexuels dont on sait aujourd'hui qu'ils ont des effets extrêmement forts sur le psychisme, mais qu'il y a aussi une interrogation en fait liée à la santé mentale des mères et à ce qui peut aussi se passer quand on vient d'avoir un bébé, que ce soit une dépression postpartum, une psychose postpartum, etc. Mais je pense que cet homme en noir est à la fois le résultat d'un traumatisme qu'elle a vécu, peut-être un déni de culpabilité, et puis peut-être aussi l'histoire qu'elle se raconte pour ne pas se suicider, parce que c'est aussi quelque chose qu'on oublie souvent, mais Christiane a tenté de se suicider après avoir tué les enfants, elle a essayé à nouveau en prison, et donc je pense qu'admettre que c'est elle qui l'a fait, et quelque chose qui serait beaucoup trop dangereux.
Et elle va plus loin, elle vous parle aussi de traces ADN retrouvées, d'après elle, hein, sur les cheveux d'un des enfants. Elle vous parle aussi d'une petite boîte à souvenirs qui aurait disparu ce jour-là.
Oui, oui, absolument. Alors ça, c'est vraiment à la fin de l'enquête, c'était un petit peu la pirouette où je pensais avoir terminé mon enquête et elle me dit ça, donc je suis un peu genre, mon Dieu, mais faut-il reprendre tout depuis le début ? Après, je pense encore une fois qu'il ne s'agit pas d'une erreur judiciaire. Je pense que la police allemande, la justice allemande a fait son travail, mais avec des moyens, encore une fois, qui sont peut-être pas forcément adaptés, que ce soit la psychiatrie, que ce soit la législation. Et moi, je pense que les traces ADN, il y a effectivement une histoire de fichier ADN, ça coûte extrêmement cher d'aller vérifier ses preuves. Et Christiane n'avait plus d'argent. Enfin bon, il y avait des questions pour réouvrir. Mais de toute façon, une demande de révision avait déjà été formulée, qui avait été rejetée. Donc voilà, on n'a pas jugé bon de rouvrir le dossier. Ce qui aurait pu changer la donne, ce qui pourrait encore aujourd'hui changer la donne, c'est de réussir à prouver que Christiane a été vraiment victime d'inceste en regardant dans tout le matériel pédopornographique de son père, qui ont été saisis. Et là, si on trouve des photos de Christiane, des photos d'Elmu, ça peut quand même vraiment changer quelque chose. On peut prouver ça, en tout cas.
Bien sûr. Alors, vous l'avez rencontrée, donc, Christiane K., en prison. Quelle était votre impression en la voyant, en la découvrant ?
Alors, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste des affaires criminelles. Hein. Ce n'est pas mon hobby favori. Donc, évidemment, on est toujours dans une espèce d'angoisse de se dire, mon Dieu, je vais rencontrer quelqu'un qui a tué ses enfants, a fortiori de ses mains, comme vous l'avez dit pendant le récit. J'étais un peu comme, vous vous souvenez de Jodie Foster, quand elle va rencontrer Anthony Hopkins dans Le silence des agneaux.
Oui.
Donc, moi,
oui.
J'avais lu, en fait, tout sur elle. Je savais tout. J'avais des photos d'elle placardées sur mon bureau. J'étais vraiment dans cette idée d'une femme froide, manipulatrice, qui allait essayer un petit peu, voilà, de me retourner. Et donc, j'y allais en étant méfiante. En même temps, vous savez très bien qu'il faut un minimum d'empathie pour réussir à ce que les gens vous parlent. Donc, j'étais dans ce mélange. Et puis, quand on arrive en prison, c'est quand même un environnement extrêmement anxiogène. C'était au moment du Covid. Donc, on était tous masqués. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment un moment compliqué, où il faut réussir à établir un lien. Et moi, quand je l'ai vue arriver au parloir, j'ai vu une toute petite, quasiment une petite fille. Elle est toute petite, avec vraiment un visage très poupin. C'était difficile de penser qu'elle pouvait être mère, même. J'ai vraiment vu une petite fille.
Et pourtant, six enfants. Elle est
Six fois mère. Donc, c'est vraiment ça qui a été la première chose. Et puis, j'ai été très étonnée parce qu'elle n'a pas du tout parlé pendant le procès. Ça, c'est vraiment une constante dans les affaires d'infanticide. Le crime est tellement énorme, ça remet tellement de choses en question, la société patriarcale, ce que veut dire être une mère, etc., qu'en général, les femmes se taisent. Et donc, j'avais jamais entendu sa voix, je ne savais pas si elle allait me parler. Elle a été tout de suite extrêmement honnête, soucieuse de raconter ce qu'elle avait vécu, son histoire. Elle n'a pas du tout fait de rétention d'informations, elle n'a pas essayé de jouer. Elle a été donc, et elle a pleuré au bout d'une heure, une heure et demie, quand je lui ai demandé de me raconter ce qui s'était passé. Elle s'est mise à pleurer. Elle a eu vraiment une attitude extrêmement sensible, intelligente. Enfin, elle était à des années-lumière de moi, de l'image que je pouvais m'en faire.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Prud'Antoine, Christiane K. vous confie qu'elle a grandi avec un père incestueux, qu'elle a été violée à l'âge de 12 ans, puis qu'elle a subi des violences conjugales de la part de son ex-conjoint. Bon, des faits dont on ne peut pas apparemment douter, mais est-ce qu'elle fait le lien, elle, entre ces violences et le quintuple infanticide dont elle a été reconnue coupable ? Et est-ce que les psychiatres font le lien également ?
Alors, je ne pense pas qu'elle puisse comprendre ou qu'elle puisse être consciente de à quel point, en fait, cette violence... Parce qu'en fait, cette violence, ce viol, cet inceste et ces violences domestiques n'ont pas vraiment été sanctionnées. Le viol n'a jamais été reconnu par la justice, c'est-à-dire qu'elle a été traitée pour des troubles psy, mais à aucun moment, ça n'a été reconnu. Les violences domestiques, elle a appelé à de nombreuses reprises. Il y a une escalade de la violence, notamment au moment du Covid. Les services de police le savent, les services sociaux, mais rien n'est fait. Donc en fait, c'est comme si elle criait un peu dans le désert, il y a des choses qui se passent, mais on ne la croit pas. Et en réalité, je pense que les infanticides, dont on pense vraiment que ce sont des crimes rares, sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Il y a eu des statistiques en 2022, le ministère de l'Intérieur en France a constaté qu'en fait, un enfant était tué par sa mère tous les 10 jours. C'est-à-dire que c'est pas loin des féminicides, c'est un chiffre qui est énorme. C'est quelque chose, en fait, qui est un trou noir à la fois politique, à la fois juridique. Ce sont des crimes dont on ne veut pas parler parce que, encore une fois, ils remettent en question tellement de choses, la manière dont la société est organisée, comment les mères sont jugées, les attentes à leur égard, les troubles mentaux qu'on peut ressentir, etc., etc. Donc, en fait, aujourd'hui, on sait que dans beaucoup de cas d'infanticide, le profil des femmes est très similaire. Ce sont souvent des femmes qui ont vécu des abus, que ce soit des incestes, des viols, des violences domestiques. À un moment donné, cette espèce de violence subie, intériorisée, elles vont la retourner contre leurs enfants. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que les pères, évidemment, tuent aussi leurs enfants. Ça arrive
mais,
également.
Mais plus âgés, les enfants plus âgés.
Exactement, les enfants plus âgés, mais par exemple le complexe de Médée qui est justement utilisé là dans l'affaire Christiane K, c'est-à-dire on dit elle a tué les enfants parce que son ex-mari s'affiche avec une nouvelle compagne. En réalité, cette logique de la revanche, de la jalousie, est beaucoup plus le mobile des hommes quand ils tuent leurs enfants. Donc c'est exactement la même réflexion que pour les féminicides, c'est-à-dire qu'un homme va tuer sa femme parce qu'elle a voulu se séparer, parce qu'elle a voulu le quitter. Un homme va tuer les enfants parce que, même chose, la compagne a voulu de partir, est avec quelqu'un d'autre, etc. Alors que les mères le font beaucoup plus souvent parce qu'elles ne veulent pas les laisser seules. Donc en fait, en général, c'est des suicides élargis. Et ça, c'est quelque chose, on commence aujourd'hui seulement à comprendre les dynamiques, les logiques qui jouent, mais aussi combien les femmes qui commettent des infanticides sont très souvent victimes d'un certain nombre de violences patriarcales.
Et puis il y a aussi le fait que l'infanticide est un crime qui ne se raconte pas, comme si la violence des femmes était plus inacceptable que celle des hommes.
Absolument, et je vais rebondir là-dessus parce que, par exemple, si vous prenez Dupont de Ligonnès, qui a quand même supprimé toute sa famille avant de disparaître, c'est une conversation que tout le monde adore avoir, qui fait se délier les langues, on adore. Parler d'une femme qui tue 5 de ses 6 enfants, vous pouvez être sûr que les gens vont être absolument effrayés, ne voudront pas en entendre parler, parce que oui, ça vient révéler vraiment quelque chose, je crois, de quasiment d'existentiel à nos sociétés, c'est-à-dire le rôle de la mère. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mères, que doivent faire les mères, et surtout il y a toute cette affaire en fait en Allemagne aurait pu conduire à un vrai débat, notamment sur la charge mentale, les femmes célibataires qui n'ont pas de moyens, les troubles psy en fait que beaucoup de mères connaissent mais qui sont passés sous le tapis. Encore une fois, on n'a pas besoin de tuer ses enfants d'en arriver là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes par ces affaires d'infanticide, mais dont on ne veut pas parler.
Alors, l'infanticide semble être la transgression absolue hein, dans l'échelle du crime. Et là, c'est un quintuple infanticide. Donc, c'est 5 fois une transgression. Est-ce que ça ne la condamnait pas de fait? Et quels qu'auraient été les débats devant la justice à la condamnation la plus lourde, perpétuité?
Oui, alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça c'est quelque chose qui a été souvent mentionné, le fait qu'elle les tue, qu'il y en a 5, qu'elle les tue à la chaîne, etc. Mais la sanction pénale en Allemagne, c'est pas comme aux États-Unis, c'est-à-dire que ça va pas être le nombre qui va déterminer. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'on a un élément très intéressant du code pénal qu'on appelle la perfidie.
Oui.
La perfidie, donc c'est un marqueur qui permet de requalifier un homicide en meurtre et donc automatiquement de donner la peine, pas capitale, mais la peine maximale. Perfidie, ça veut dire quand vous tuez quelqu'un qui n'est pas conscient. Donc, en réalité, dans le cas de Christiane, comme elle endort les enfants avec les médicaments, elle les empoisonne pour les endormir, on considère qu'ils ne pouvaient pas être conscients et qu'ils ne pouvaient donc pas se défendre. Et donc, automatiquement, on va mettre ce marqueur qui va la rendre, qui va lui donner la prison à perpétuité. Mais si vous jetez vos enfants, par exemple, dans le feu, ça, on n'aura pas le marqueur de perfidie. Donc, ça veut dire que la sanction pourra être moindre. Et ça, c'est un élément absolument fascinant dans le code pénal allemand, parce que si vous prenez justement les affaires de violence domestique, par exemple, les femmes ne vont pas tuer comme les hommes, pour une simple raison, c'est que les femmes n'ont pas la force physique des hommes. Donc, si je veux tuer mon mari, par exemple, je vais l'empoisonner, ça va être dans son sommeil, donc ça va être automatiquement perfide. Donc, automatiquement, je vais risquer la prison à perpétuité. Donc, ça, c'est quelque chose, par exemple, fondamentalement, dans le code pénal, qui va discriminer les femmes beaucoup plus que les hommes.
Alors évidemment, dans ce genre d'affaires, les analyses psychiatriques sont très importantes. Vous dénoncez notamment ce qu'on appelle le manuel DSM-5, une sorte de bible de psychiatre sur lequel ces derniers s'appuient pour diagnostiquer ou pas des troubles mentaux de la personnalité. Qu'est-ce que vous reprochez à ce manuel ?
Alors, moi, personnellement, pas grand-chose, mais il faut savoir qu'en fait, ce manuel, par exemple, vous le savez probablement, a sorti l'hystérie a été quand même considérée comme une maladie mentale jusque les années 80. Donc en fait dans ce manuel vous pouviez être considéré comme hystérique jusque 1980, ce qui est quand même assez récent. On sait aujourd'hui que la psychiatrie en fait n'a pas forcément que tous les symptômes, les critères utilisés pour diagnostiquer les maladies mentales le sont sur des hommes. Donc c'est exactement comme dans la médecine générale, par exemple. On sait aujourd'hui que pour diagnostiquer un infarctus, les femmes ne vont pas avoir les mêmes symptômes que les hommes. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, si vous prenez l'autisme, si vous prenez les cas d'hyperactivité, il y a beaucoup plus de petits garçons qui sont diagnostiqués parce que, tout simplement, les critères sont beaucoup plus adaptés. Et beaucoup de petites filles autistes ou qui ont des troubles hyperactifs ne seront pas dépistés, donc ne seront pas soignés, etc. Et ça vaut pour des maladies comme la bipolarité, la dépression, les psychoses postpartum, etc., etc. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la psychiatrie n'est pas adaptée, n'a pas en fait fait sa révolution, son changement de logiciel à l'égard des symptômes. Et ça a évidemment des conséquences dramatiques au pénal, et en justice, puisque voilà, les femmes vont être, par exemple, des maladies du postpartum, que ce soit des psychoses postpartum, qui est par exemple un truc très sérieux, qui conduit très souvent à l'infanticide. Si vous regardez aux États-Unis, les femmes sont condamnées à mort pour ça, pour un trouble qui relève d'une pathologie hormonale.
Eh bien, ce sera le mot de la fin sur cette comparaison et ce parallèle. Merci infiniment, Prune Antoine. Je rappelle le titre de votre livre, La mère diabolique, chez De Noël. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Christiane K. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.